Force Info.
Bonjour à tous, Washington DC est de retour pour une saison 2. C'est un peu surréaliste de reprendre l'aventure 4 ans après avec encore en tête d'affiche Donald Trump et Joe Biden. Mais bon, tout peut arriver d'ici le 5 novembre prochain. Et avec ce podcast, balado pour nos amis canadiens, on va décortiquer l'actualité de la campagne et vous emmener dans les coulisses avec ce qu'on voit moins, ce que vous n'avez pas encore entendu. Washington DC saison 2, ça commence maintenant.
We have a president who is a great danger to democracy.
Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
Washington DC.
Joe Biden is a low IQ individual. He is truly the worst and most corrupt president in the history of our country.
Le podcast des médias francophones publics.
I'm Joe Biden, damn proud of it.
I will prevent World War III.
So, are you with me?
Washington DC.
Je suis Sonia Dridi de la RTBF. J'ai une pensée pour mes anciens collègues de la saison 1 et je suis ravie de retrouver mes nouveaux compagnons de route, les correspondants pour les radios francophones publiques installées à Washington. Je vais vous laisser vous présenter.
Je suis Guillaume Naudin de RFI.
Bonjour, je suis Sébastien Paour de France Info.
Bonjour, je suis Frédéric Arnould de Radio-Canada.
Et on rejoint tout de suite à Los Angeles Jordan Davis de la RTS. Il est suisse et américain. Hello Jordan, ça va ?
Salut Sonia.
Alors nous, on n'est pas sous le soleil californien. On enregistre cet épisode dans le studio de Radio-Canada, situé à deux pas de la Maison-Blanche. Et j'aimerais avoir votre impression à tous sur ce processus de caucus et primaires complexes et parfois un peu tiré par les cheveux. Jordan, en tant qu'Américain du groupe, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un caucus et qu'est-ce qui t'a frappé, toi, en allant dans l'Iowa en janvier ? C'est l'État qui a ouvert le bal des primaires côté républicain.
Exactement. On parle du bal des primaires, Sonia, parce que c'est vraiment le processus de sélection des délégués qui iront au congrès des partis, les conventions, comme on les appelle, à l'été, qui vont officiellement sélectionner, choisir le candidat de chacun des partis en novembre.
We have a great Republican team here in Iowa. What a great state Iowa is.
Vous, Sébastien et Guillaume, c'est quoi qui vous a frappé en allant couvrir ces caucus ?
Alors, les urnes qu'on a vues, qu'on a croisées, nous. Hein, Sébastien ?
Oui, on a été très marqués par la manière dont on procède pour ces caucus. C'est le début de la démocratie américaine pour une élection présidentielle dans le plus grand pays du monde, le plus puissant du monde. Et on se retrouve dans l'Iowa, à Des Moines, dans un lycée. Il y avait, dans le lycée où j'étais, 60 personnes qui sont venues voter. Alors effectivement, on a tous retenu l'histoire des urnes. Moi, c'était une casquette Harley Davidson retournée dans laquelle les participants sont venus découper un petit morceau de papier, écrire le nom de leur candidat. Certains écrivaient Trump, l'autre écrivait DeSantis, le troisième Nikki Haley, et puis on mettait ça dans la casquette, et puis on faisait les comptes, et basta, voilà comment la démocratie américaine commence en année électorale.
Une casquette Harley Davidson, c'est assez élégant. Moi, j'avais un sac à congélation parfaitement transparent, donc aucune tricherie n'était possible. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant. Oui.
Et toi, Frédéric, tu as vu des rassemblements des trois candidats, je crois. Est-ce que, clairement, tu as vu tout de suite un plus grand enthousiasme côté Trump ?
C'est clair que, bon, ils sont toujours là, hein, ils sont toujours présents, les partisans de Trump, ils vont le suivre aveuglément, peu importe ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et ce n'est pas 91 chefs d'accusation dont il est la cible qui vont changer quoi que ce soit de toute manière. Donc, ils sont là, ils sont présents. C'est toujours un peu les mêmes cassettes là, qui nous servent. C'est vraiment, ils répètent un peu comme des perroquets tout ce que Trump dit.
L'invasion de notre pays doit s'arrêter. Nous entamerons la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis.
On a des centaines et des centaines de terroristes qui arrivent dans notre pays chaque jour. Personne ne les arrête et ils sont horribles. Nous devons ramener Donald Trump à la Maison-Blanche et rendre sa grandeur à notre pays.
Tout ce qui se passe mal pour l'instant, Trump le résoudra. Quand il était président, tout allait bien. La guerre en Ukraine, la situation en Israël ne serait jamais arrivée avec Trump dans le bureau ovale.
Ça montre à quel point Donald Trump domine ce parti. Ça montre vraiment que Donald Trump n'a pas beaucoup de soucis à se faire auprès de la base de ce parti et que ses concurrents n'ont pas réussi à percer, n'ont pas réussi à fissurer ce socle électoral sur lequel Donald Trump est assis en ce moment.
Washington, DC. Le podcast des médias francophones publics.
Alors, sans surprise, Trump a triomphé dans l'Iowa avec quelque 51% des voix. Ça a confirmé son statut de grand favori. Nikki Haley, elle est arrivée en troisième position. Et dans le New Hampshire, elle a fait un score plutôt encourageant avec 43% des voix.
Elle est désormais seule face à Trump et elle est partie à l'offensive.
La question que doivent se poser les Américains est très claire. Voulez-vous encore de la même chose ? Notre campagne est le dernier espoir pour stopper le cauchemar Trump-Biden.
Pour ceux qui ont vu la candidate récemment, quelle est l'ambiance dans ce meeting et pourquoi, d'après vous, est-elle encore dans la course ?
Écoute, moi j'ai senti beaucoup de tension dans les meetings de Nikki Haley. Est-ce que ça tient au fait qu'elle va jeter l'éponge avant le Super Tuesday? J'en sais rien, mais j'ai trouvé que déjà à l'endroit des journalistes, notamment des journalistes étrangers, évidemment, on n'a pas d'intérêt vraiment pour des candidats comme elle à entrer dans ces meetings. Il a fallu se battre, entrer clandestinement, hein, disons-le. Faut pas afficher son
c'est-à-dire
étiquette
de
journaliste. Et ben je me suis inscrit comme si j'étais un militant, un électeur potentiel de Nikki Haley pour pouvoir rentrer. Alors, en l'occurrence, c'était chez Browns, un petit restaurant de poissons au bord de la mer, là, sur la côte de New Hampshire, l'un de ses derniers meetings. Un tout petit truc, j'ai pris un lobster roll, je me suis installé, j'ai mangé, les gens sont arrivés, c'était très bon, mais on est venu me demander, son équipe est venue me dire, faut partir de là, vous êtes journaliste, on le voit, etc., parce que je parlais aux gens, évidemment, j'avais un petit micro discret, donc on m'a repéré, mais voilà, j'ai senti de la tension, et puis du côté des électeurs de Nikki Haley, pour résumer, je dirais que la tendance générale, elle n'a pas encore abandonné. On attend Nikki Haley, ce sera peut-être 2028, quoi. Voilà, globalement, ce que j'ai senti, je ne sais pas ce que vous avez ressenti les uns et les autres. Frédéric, tu étais là-bas, toi ?
Effectivement, ce qui est intéressant, c'est tout le monde se pose la question, mais pourquoi elle est encore là ? Quand on voit tous les sondages qui sont vraiment terribles pour elle-même dans son propre état. Mais en fait, il y a deux réponses à ça. D'abord, ce n'est pas parce que Trump va rester peut-être le seul dans les prochaines semaines que le processus s'arrête. Il y a un processus à suivre au niveau des caucus et des primaires. Il faut que Donald Trump, pour devenir le candidat investi, il faut qu'il obtienne au moins 1215 délégués pour lui. Et donc, il faut qu'il les obtienne. Donc, il faut que les caucus et les primaires se poursuivent. Et donc, on pense qu'une semaine peut-être après le Super Mardi, le Super Tuesday du 5 mars, il devrait arriver à ce seuil. En attendant, la deuxième réponse, c'est... dans le fond, Nikki Haley, elle reste là parce qu'elle se dit, il y aura peut-être à un moment donné une fatigue judiciaire par rapport à tout ce qui est problématique pour Donald Trump avec les poursuites, avec les procès qui continuent leur bout de chemin. Dans les faits, on pense pas que ça va changer grand-chose parce que c'est l'homme qui va de toute façon obtenir le seuil, mais Madame Haley est toujours là, elle attend de voir.
Jordan, pour la RTS, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, j'ai vu Nikki Haley dans le New Hampshire et ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à ciseler ses attaques contre Donald Trump de manière de plus percutante, en disant qu'il est trop vieux, en disant qu'il tente de passer la main, en disant qu'il est confus.
Le problème n'est pas seulement chez Joe Biden. Donald Trump m'a confondu avec Nancy Pelosi. Vous avez vu ses crises de colère, les erreurs qu'il commet. Le temps est venu pour une nouvelle génération de dirigeants. Le parti qui arrivera à débarquer son candidat de 80 ans sera le parti qui gagnera l'élection.
Mais voilà, on voit aussi combien le Parti républicain a radicalement changé. Je veux dire, il y a les primaires dans la Caroline du Sud, un État où elle a été gouverneure jusqu'en 2016, quand Donald Trump l'a nommée pour devenir ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Et on voit maintenant que tout le parti, toute l'infrastructure du parti, les militants sont complètement inféodés à Donald Trump. Nikki Haley, qui était quand même une figure très très emblématique de la politique de cet État, tout d'un coup est passée au second plan derrière Donald Trump. Il y a une trumpisation de tout le parti et je pense qu'on va voir ça en Caroline du Sud, le 24 surtout.
Oui, c'est le 24 février qu'il y a les primaires chez elle en Caroline du Sud. Et puis il faut aussi dire que pour l'instant, elle peut continuer parce qu'elle a aussi le financement de grands donateurs du Parti républicain qui ont un intérêt à ce qu'elle reste dans la course.
Washington, D.C.
Alors cette année, il y a eu un changement historique côté démocrate puisqu'ils ont décidé, au lieu de l'Iowa, de commencer la primaire en Caroline du Sud, l'État qui a sauvé la candidature de Joe Biden en 2020, notamment grâce au soutien des Afro-Américains. Alors pour les mobiliser, Joe Biden peut compter sur son grand ami de longue date, Jim Clyburn, qui est élu de la Caroline du Sud depuis plus de 30 ans.
Ladies and gentlemen, a great president, a good man, Joe Biden.
Jim a fait de moi le président. Il m'a toujours soutenu.
Guillaume, toi, tu l'as vu à l'œuvre récemment en couvrant cette première primaire démocrate.
Donc, ça a été un vrai triomphe et les gens étaient très contents. Et puis, il y avait évidemment des militants démocrates qui étaient là, dont une retraitée, une ancienne de l'armée américaine que j'ai rencontrée, qui m'expliquait qu'elle y avait toujours cru, qu'elle savait que Joe Biden allait gagner et que les sondages, qui sont pas très bons, il faut le dire, hein, depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois pour Joe Biden, eh bien, que ces sondages se trompaient.
Je sais qu'il va gagner en Caroline du Sud. On était déjà là il y a 4 ans et on est encore là aujourd'hui. Je ne crois pas aux sondages, ils sont manipulés. Ils se sont trompés déjà 3 ou 4 fois.
Et c'est vrai que ça, ce soutien des Afro-Américains à Joe Biden, c'est vraiment clé. Mais même là, tu parlais des sondages qui ne sont pas très bons, même chez les Afro-Américains, eh bien, les sondages sont moins bons. Et notamment, c'est chez les jeunes Afro-Américains qu'il y a de moins en moins de soutien pour Joe Biden. Alors, Joe Biden a remporté cette primaire de Caroline du Sud avec quelque 96% des voix. Et il devrait avoir un boulevard jusqu'à la convention démocrate cet été, puisque ses deux rivaux sont quasi inconnus du grand public. Mais les démocrates s'inquiètent de plus en plus de son état de santé. Il a notamment fait des confusions très embarrassantes récemment, comme lorsqu'il a confondu François Mitterrand avec Emmanuel Macron.
Juste après mon élection, j'ai été à une réunion du G7 et j'ai dit « l'Amérique est de retour ». Et Mitterrand, d'Allemagne, enfin de France, et il m'a dit « vous êtes revenu depuis combien de temps ?»
Il a ensuite confondu Helmut Kohl avec Angela Merkel et cerise sur le gâteau lorsqu'il s'est exprimé depuis la Maison Blanche un poil irrité pour dire qu'il avait toute sa tête. Eh bien, il a parlé de Sisi du Mexique à propos d'El Sisi, le président égyptien.
Vous savez, à la base, le président du Mexique, Sisi, ne voulait pas ouvrir la porte pour laisser passer l'aide humanitaire. Et je lui ai parlé.
Ouais, c'est vraiment gênant. Hein. Il convoque en urgence une conférence de presse pour expliquer qu'il a une très bonne mémoire, qu'il a toute sa tête. On sent qu'il est en colère parce que le procureur spécial Robert Hur a mis en cause sa mémoire en expliquant qu'il ne se souvenait même pas de la date de décès de son fils. Tu as écrit, Sonia, toi, un livre sur Joe Biden et tu sais, tout le monde sait que s'il y a une chose dont il ne faut pas parler à Joe Biden, ou en tout cas pas la critiquer, ouais, c'est sa famille. On peut le dire, je crois que ça l'a vraiment rendu fou. Ouais. C'est pour ça qu'il a convoqué cette conférence en urgence pour expliquer qu'il avait toute sa tête. Et là, patatras, il nous parle du président du Mexique et l'effet est totalement inverse de l'effet recherché.
On sentait presque une petite gêne en l'écoutant. Enfin, c'était...
À la base, il y a quand même une raison d'être très énervé. Ce rapport de Robert Hur, il est absolument dévastateur. À la fois, il est complètement blanchi dans l'affaire des documents qu'il a embarqués chez lui du temps où il était vice-président. C'est le bazar, il y a sa Corvette dans le garage, il a embarqué des cartons du temps de la vice-présidence. Bon, soit, il a collaboré, il y a eu une enquête, ce procureur spécial nommé, qui est un républicain, qui dit, ok, il n'y a pas de souci pour Monsieur Biden et on ne le poursuivra pas. C'est un vieux papy qui n'a plus sa mémoire. Et cette dernière phrase dans le rapport l'a rendu fou, il convoque la presse et il fait ce lapsus. Moi, je trouve qu'on on l'attaque un peu beaucoup.
Ben oui, on a l'impression qu'il y a un petit peu de standard, là, deux poids, deux mesures, quand on compare tout ce que dit ou ce qu'a fait M. Biden et M. Trump. En fait, Trump n'est pas à l'abri justement de ces problèmes de mémoire ou de confusion totale. Donc, il y a comme un traitement qui est beaucoup plus épidermique, en fait, des problèmes de mémoire ou de facultés cognitives de la part de Biden que de Donald Trump, parce que Donald Trump, dans le fond, il nous a tellement habitués à dire tout et son contraire, tout et n'importe quoi dans ses rassemblements où il dit des choses parfois énormes. Et dans le fond, mais c'est comme si oh, ça fait partie du décor, c'est Trump. Mais dès que c'est Biden, parce que Biden a 3 ans de plus que l'autre, tout de suite, ça prend des proportions complètement autres.
J'ai les idées claires. Je suis peut-être un homme âgé, mais je sais ce que je fais, bon sang. Je suis le président, j'ai remis ce pays sur les rails. Je n'ai pas besoin de conseils.
Comment se porte votre mémoire? Pouvez-vous continuer à être président?
Ma mémoire va tellement mal que je vous ai laissé parler. Ma mémoire va bien. Regardez tout ce que j'ai fait depuis que je suis président.
Sébastien, pour France Info.
Donc on est clairement sur un monsieur, un vieux monsieur, un peu âgé, qui a une démarche un petit peu lente, effectivement un petit peu fragile, qui ne monte plus dans Air Force One en prenant le grand escalier qui nous permet de voir le ciel, depuis lequel il se retourne ensuite au moment d'entrer dans l'avion. Il prend maintenant le petit escalier qu'il fait monter en partie basse de son Boeing présidentiel. présidentielle, il y a moins de marche, il y a moins de risque de chute. Il est tombé à vélo, il est tombé sur une estrade en se prenant les pieds sur un lest en un sac de sable. Donc il y a plein de petits détails qui, sur lesquels évidemment la presse insiste et ces conférences de presse font qu'on a effectivement l'impression d'être en face d'un monsieur dont on se demande s'il va tenir jusqu'à la fin d'un deuxième mandat éventuel où il aurait 86 ans.
Ouais, et les proches conseillers de Biden en fait font le pari que les gens vont aller voter pour lui pour faire de nouveaux barrages à Trump. Cette fois-ci, c'est un pari risqué. En attendant, la stratégie de Trump, c'est d'être toujours plus offensif. Il sait que plus il provoque, plus cela plaît à sa base électorale. Il a notamment fait cette déclaration sur l'OTAN.
Le secrétaire général Stoltenberg, je ne sais pas s'il est toujours là, mais c'était mon plus grand fan. Il disait que tous ses présidents venaient, faisaient un discours, repartaient, et c'était tout. Ils devaient tous de l'argent et ils ne voulaient pas payer. Je suis arrivé, j'ai fait un discours et j'ai dit « Vous devez payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé, il a dit « Monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, vous nous protégerez ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé ? Votre compte est en souffrance ?» Il a dit « Oui, imaginons que ça arrive ». Et j'ai dit « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer vos factures. »
Bah là, je pense qu'on entend clairement un message très clair qui est le reflet de l'état du Parti républicain aujourd'hui, parce que Donald Trump dit ça en même temps que les républicains, par exemple, au Congrès, bloquent une enveloppe d'aide, notamment pour l'Ukraine. Aujourd'hui, on voit une nouvelle génération de républicains qui arrivent maintenant avec Donald Trump, qui sont maintenant beaucoup plus America First, une relation beaucoup plus transactionnelle et franchement très pro-Poutine et qui n'est pas tout à fait prête à défendre l'Europe comme ça a été le cas ces 80 dernières années.
Guillaume, pour RFI.
C'est vrai que quand on est européen, c'est assez surprenant, c'est même inquiétant, évidemment, d'entendre des choses pareilles. Ça fait quelques années que les dirigeants européens, c'était le cas d'Angela Merkel qui disait maintenant on est seul, doivent réfléchir à des alternatives. Est-ce que les Européens craignent ce qui va se passer au mois de novembre ici? La réponse est évidemment oui, quoi.
Oui, Frédéric, pour Radio-Canada.
Et certains diront, dans le fond, il dit ce genre de choses-là parce que c'est comme du red meat, comme on dit. C'est vraiment pour sa base, sa les galvanise et tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas deux Donald Trump. Il n'y a pas un Donald Trump des primaires et un Donald Trump après les primaires pour dire « bon, mais je vais être le président de tout le monde ». Ça ne marche pas comme ça. Donald Trump ne changera jamais. Et en fait, on a même l'impression que ça empire. Tout ce qu'il tient dans ses propos, tout ce qu'il dit qu'il va faire, dictateur d'un jour, si jamais j'étais élu, etc. On a l'impression que c'est de pis en pis. Et donc, je pense pas que son dialogue, tout ce qu'il dit, tous ses discours vont changer fondamentalement une fois qu'il aura obtenu l'investiture, parce que c'est Donald Trump, il fait à sa tête, il dit ce qu'il pense, pour le meilleur et pour le pire.
Nous n'avons jamais été aussi proches de la Troisième Guerre mondiale. Moi, pendant 4 ans, j'ai gardé l'Amérique en sécurité, Israël en sécurité, l'Ukraine en sécurité, le monde entier en sécurité.
And we will make America great again. Thank you, New Hampshire. God bless you. Thank you. Thank you, New Hampshire.
En tout cas, tout peut arriver d'ici l'élection. On sait aussi que Donald Trump a plusieurs casseroles judiciaires, devait d'ailleurs avoir son procès qui devait s'ouvrir le 4 mars. Il a été retardé en raison notamment de sa demande d'immunité. On va vous retrouver, nous, dans un mois pour un prochain épisode. On commentera notamment le Super Tuesday qui va avoir lieu le 5 mars prochain et lors duquel une quinzaine d'États doivent voter. Donc, à très bientôt.
Washington, D.C.
Merci.
Salut.
Salut.
À bientôt.
Ciao.
Le podcast des médias francophones publics. Radio-Canada, Radio France, RTS, RFI, RTBF.